tout à l'heure.
Imaginez un parasite capable d'infecter notre cerveau et de nous manipuler au point de nous faire perdre la raison en nous jetant vers le premier danger venu. Eh bien, ce parasite existe et vous connaissez même très bien son nom, c'est Toxoplasma gondii, qui est à l'origine de la toxoplasmose. Chez la souris, ce parasite a la capacité de modifier la peur des chats en une incontrôlable attirance, ce qui est un peu ballot, vous l'admettrez. Ces parasites qui nous manipulent, c'est le dossier cet après-midi de La Tête au Carré, en partenariat avec la revue Cerveau et Psycho et avec vos messages sur le site de l'émission. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, le système de navigation solaire des fourmis.
Oui, si vous ne vous êtes jamais demandé comment une fourmi retrouvait la route de son nid en tirant un morceau de cookie à reculons, c'est le moment, car la réponse est passionnante et c'est l'éthologue Antoine Boustrard qui nous la donne dans un instant.
Et puis la science grand format, ce sera la fin de l'émission avec nos confrères de France 5. Voilà donc pour le sommaire de cette tête au carré préparée par Stéphanie Texi avec Dylan Beiner et Pierre De Certaine.
La tête au carré. Magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Avec dans quelques instants ces parasites qui nous manipulent dans le dossier de l'émission avec mes invités Sébastien Boller pour la revue Cerveau et Psycho. Bonjour Sébastien.
Bonjour Mathieu.
Et puis le chercheur Frédéric Thomas en duplex des studios de France Bleu Hérault à Montpellier. Bonjour à vous Frédéric Thomas.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Sébastien, notre cerveau, il peut donc être pris en otage par des parasites ?
Pris en otage. La question est posée. Effectivement, il y a des modifications de comportement, de personnalité qui seraient indiquées par certaines études, vous savez, chez la personne qui serait infectée par le parasite de la toxoplasmose. Ouais. Donc, il commence à y avoir des indices, comme quoi notre comportement pourrait être légèrement modifié.
Frédéric Thomas, des animaux qui deviennent suicidaires à cause des parasites, ce sont des choses fréquentes dans la nature ?
Oui, absolument. En fait, il y a beaucoup de parasites manipulateurs de comportement. Donc la première catégorie, c'est ceux qui sont transmis le long des chaînes trophiques, c'est-à-dire des parasites qui ont des cycles complexes et qui doivent passer d'un hôte à un autre hôte et qui souvent, c'est un prédateur. Et donc dans ce cadre-là, modifie le comportement dans un sens qui augmente les probabilités de prédation de la proie par le prédateur. Voilà, après, il y a... Certains parasites qui doivent rejoindre un certain habitat, donc qui manipulent pour amener l'hôte au bon habitat. Il y en a qui sont transmis par des vecteurs, qui obligent les vecteurs à piquer davantage. Il y en a qui obligent leur hôte à protéger leurs larves. Et puis, il y a les fameux oiseaux parasites qui obligent des oiseaux hôtes à s'occuper de leurs poussins. Donc voilà, en gros, les grandes catégories de manipulation que l'on observe dans le monde vivant. Et donc, c'est très fréquent.
Et vous avez étudié, par exemple, les grillons suicidaires, mais vos recherches concernent également le cancer. On va se retrouver donc dans quelques minutes pour en discuter avec les messages et les questions des auditeurs. Et c'est l'étonnant système de navigation solaire à 360 degrés des fourmis qui est aujourd'hui à la une de la science.
Visez l'étoile polaire. Tu la plombes verticale. Ne bougez pas. Une erreur d'un degré et on peut dériver de 600 lieues. Qu'est-ce que vous disiez ?
28.
Parfait. Le 28e parallèle, et nous le suivrons jusqu'à ce qu'on touche Terre.
Et vous êtes sûr qu'on trouvera la Terre sur le 28e parallèle ?
Sûr, non.
Voilà, Gérard Depardieu dans Christophe Colomb, ce film 1492, à la manière donc des navigateurs, les fourmis se servent également des astres pour retrouver leur chemin dans l'océan de brindilles qui les entoure. Mais comment faire justement lorsque l'on va à reculons, qu'on tourne le dos à la route pour traîner de la nourriture jusqu'à son nid ? C'est la question que vous vous êtes posée, Antoine Voustrard. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes ethnologue, chercheur au CNRS, au Centre de Recherche sur la Cognition Animale à l'Université Paul Sabatier à Toulouse. Oui. Alors, vous vous êtes intéressé dans ces travaux publiés dans Current Biology à l'orientation en marche arrière des fourmis espagnoles. Quel est le nom exact de cette fourmi ?
C'est une fourmi qui s'appelle Cataglyphis velox.
Pourquoi la marche arrière, alors exactement ? Ce que vous aviez compris, parce qu'avant, on connaissait bien évidemment le mécanisme de la marche avant. Dans le sens contraire, c'était plus compliqué ?
Eh ben en fait, c'était un outil qui nous permettait de se demander un peu comment la fourmi se représente l'espace. Il y avait eu des travaux assez récents qui ont montré que les fourmis étaient capables de rentrer au nid en marche arrière, même après s'être fait déplacer par un expérimenteur. Donc ça montre qu'elles sont capables d'utiliser d'une certaine manière l'information visuelle qu'elles ont apprise des repères terrestres en marche arrière. Et nous, ça nous posait problème parce qu'on avait des raisons de penser que leur mémoire visuelle des repères terrestres était égocentrée, c'est-à-dire qu'elles avaient besoin d'aligner leur corps de la même manière à chaque fois pour pouvoir reconnaître la scène visuelle. Si, par exemple, elle a appris la scène visuelle en regardant le nord et elle se retrouve à faire face à l'ouest, la perception, si vous voulez, de la scène est complètement différente sur leur rétine, donc elle devrait pas être capable de reconnaître la scène, ça devrait paraître non familier. Donc on s'est posé cette question, comment elle faisait pour utiliser et naviguer donc en marche arrière.
Moi j'ai toujours entendu dire que les fourmis, elles utilisaient des signaux chimiques pour s'orienter, là vous êtes en train de dire que c'est surtout les yeux alors?
Bon, pour cette espèce en particulier, c'est clairement des experts de la navigation visuelle. Il faut savoir que la plupart des fourmis utilisent leurs yeux pour naviguer quand ils sont à l'extérieur du nid. Il y a en effet des espèces qui utilisent des pistes chimiques. Les pistes chimiques, c'est surtout pour informer les autres congénères du nid qu'il y a une source de nourriture profitable et il faut arriver vite à plusieurs individus pour l'exploiter. Là, nous, les fourmis qu'on étudie, c'est des fourmis qui vivent dans le désert et leur spécialité écologique, si vous voulez, c'est de sortir que quand il fait très chaud, c'est-à-dire qu'elles vont se nourrir de petits insectes grillés sur le sol, et typiquement, ces insectes, ils sont éparpillés tout autour du nid. Donc, c'est pas comme s'ils étaient en gros tas et qu'il fallait dire aux congénères qu'il y a une source profitable. Il vaut mieux que chaque individu parte lui-même de son côté. Et dans ce cas, ils utilisent principalement la vision pour naviguer. Et donc, cette espèce en particulier n'utilise pas les pistes chimiques.
Comment est-ce que vous avez fait pour montrer que c'était le soleil en particulier? Quels sont les exercices que vous avez fait faire à vos fourmis?
Bon, le fait que les fourmis utilisent le soleil et puis d'autres repères célestes, c'est connu depuis longtemps. Nous, on a reproduit ça pour savoir si pendant la marche arrière, elles se fiaient entre autres à ces repères célestes. On a utilisé une très vieille technique, il y a plus de 100 ans, c'est par un Suisse, Félix Sanchi. Très simple, il suffit d'arriver avec un carton pour cacher le soleil, donc projeter de l'ombre sur la fourmi, puis un miroir en face pour réfléchir le soleil de façon à ce qu'il apparaisse dans le ciel mais opposé pour la fourmi. Et du coup, si la fourmi change sa trajectoire, c'est qu'elle utilisait entre autres le soleil pour garder son cap.
Est-ce que la nuit ou quand il y a un nuage, la fourmi trouve quand même son nid?
Ah oui, alors c'est parce qu'elle n'utilise pas seulement la position du soleil. Il y a plein d'autres repères célestes qui sont connus, utilisés par les insectes, notamment la polarisation. Le ciel bleu a un pattern de polarisation qui peut vous servir de compas autant que le soleil. C'est-à-dire que si le soleil est caché, ou même si la plupart du ciel est couvert mais qu'il reste une petite zone de bleu, ça suffit à la fourmi pour son compas.
Est-ce que ça veut dire que cette fourmi n'utilise absolument pas les repères chimiques, du coup, par rapport à d'autres espèces?
Alors, elle va utiliser moins les repères chimiques par rapport à d'autres espèces. Elle va pas laisser elle-même de traces chimiques sur le sol. Par contre, effectivement, l'olfaction joue tout de même un rôle dans la navigation. Ça a été montré. Elle va utiliser l'olfaction, par exemple, pour retrouver des proies. Mm-hmm. Elle va tendre à naviguer à 90 degrés par rapport au vent, ce qui va augmenter les chances de croiser une effluve. Et une fois qu'elle a croisé cette effluve, elle peut remonter l'effluve en utilisant l'olfaction pour localiser la proie. Elle va aussi utiliser l'olfaction, on le sait dans cette espèce, pour l'aider un peu à retrouver son nid exactement. C'est-à-dire que le nid, c'est un peu un trou dans le sol du désert, si vous voulez. Il y a du CO2 qui s'échappe. Et donc, elle peut utiliser aussi le CO2 pour traquer l'entrée. Mais si vous enlevez le CO2, elle est quand même capable d'utiliser la vision. Mmh. Et pour la route qui est entre le repère du nid et le nid lui-même, donc en général, pour la navigation, c'est clairement les repères visuels qui dominent.
Antoine Vousserard, il y a Sébastien Boller qui a une question pour vous.
Ouais. Quand on parle de navigation visuelle, on pense automatiquement au système de navigation avec la mémoire spatiale, les cellules de lieu, ce qu'on sait sur le fonctionnement du cerveau en navigation chez les vertébrés. Est-ce que les fourmis auraient quelque chose d'analogue? Est-ce qu'elles ont un cerveau déjà?
Alors oui, bien sûr, elles ont un cerveau et effectivement, elles vont construire des représentations assez sophistiquées de l'espace. Et c'est ça qu'a montré notre étude. Elles vont construire une représentation des directions. Donc quand je dis représentation, je ne veux pas dire ce que la fourmi ressent subjectivement. Ça, malheureusement, on ne peut pas y accéder. On est lié à notre représentation de cerveau d'humain, si vous voulez. On ne pourra pas ressentir ce que la fourmi ressent. Mais on peut voir, en traçant un petit peu les filtres sensoriels puis les relais neuronaux dans son cerveau, de quelle manière l'information va se combiner. Et effectivement, là, on voit qu'elle va combiner plusieurs informations, donc céleste, terrestre, probablement aussi de son propre système moteur, en une construction plus sophistiquée que tout ça, un sens des directions, comme si ça représentait, remettait dans le présent, un sens des directions qui, lui, n'est plus dépendant directement de la modalité sensorielle. Elle va pas utiliser le soleil pour s'orienter, elle va pas utiliser les repères terrestres pour s'orienter, mais elle va combiner tout ça pour créer un sens des directions qui, lui, va être utilisé pour s'orienter. Et ça lui permet de garder son cap de façon indépendante de sa propre orientation du corps. Donc on entendait au début avec l'étoile polaire, vous pouvez vous orienter directement avec l'étoile polaire en gardant l'étoile polaire fixée dans le ciel et vous allez aller tout droit. Mais la fourmi est capable de garder son cap, même en faisant des tourbillons sur elle-même, si vous voulez. Elle n'est plus directement dépendante à la perception sensorielle. Elle a construit ce sens qui est plus que tout ça, ouais.
Et tout ça dans un cerveau qui fait quelle taille, alors ?
Oui, ça ressemble à quoi, un cerveau de fourmi ?
Ouais, un cerveau de fourmi, bah, ça va dépendre des espèces, mais c'est plus petit qu'un millimètre cube, donc c'est peut-être un quart de tête d'épingle, ouais.
D'un point de vue du traitement de l'information, est-ce que ce que font les fourmis pourrait être utilisé pour des systèmes de guidage, pour des robots par exemple ?
Alors, on peut s'inspirer, c'est vrai qu'il y a d'ailleurs le laboratoire où j'étais avant à Edimbourg, c'est sa spécialité, s'inspirer de nos connaissances sur l'insecte pour construire des robots. Peut-être pas plus efficace, mais en tout cas clairement, ou plus efficace dans le sens moins coûteux. Il faut savoir, une fourmi, elle a besoin peut-être d'une goutte de sucre par jour pour faire des choses incroyables. Ouais. La navigation visuelle de la fourmi bat tous nos robots à l'heure actuelle, quoi. Ouais. Et la fourmi n'a pas accès à un GPS ou des lasers et puis des gros systèmes de computation qui sont très énergivores. Donc oui, il y a des concepts à tirer pour améliorer les robots, ça c'est sûr.
Eh bien merci Antoine Voustrard pour ces informations précieuses sur la marche arrière de la fourmi.
Et merci à vous.
Et bonne journée. Merci Axel, à demain.
Merci, à bientôt.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, plus de légumes et de fruits, moins de sucre, beaucoup moins de charcuterie. Voilà un aperçu des nouvelles recommandations de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. Ainsi, selon l'ANSES, notre consommation de charcuterie est excessive et doit se limiter à 25 grammes par jour, tandis que celle de viande hors volaille ne doit pas excéder 500 grammes par semaine. À nouveau, l'agence conseille d'augmenter notre consommation de fruits et de légumes, et en particulier de légumineuses comme les lentilles ou les fèves. Cet avis a pour but d'aider à couvrir nos besoins nutritionnels tout en limitant notre exposition à des contaminants et en prévenant les risques de maladies liés à la consommation excessive de certains produits. Le réchauffement climatique qui menace les phytoplanctons davantage qu'on ne le pensait. Une étude internationale publiée dans PNAS s'est intéressée au lien entre les courants marins et les planctons végétaux. Ces organismes sont en effet très dépendants des courants et pour se développer, ils ont besoin de lumière présente à la surface des océans et de nutriments situés eux dans les eaux profondes et que les courants marins apportent à la surface. Or, le réchauffement climatique diminue ces courants, mettant en danger les phytoplanctons qui forment le premier maillon de la chaîne alimentaire des océans. Selon cette étude, une baisse de 15% de la production entraînerait une baisse de 50% des ressources halieutiques dans certaines zones du globe. Et puis des loutres géantes en Chine il y a 6 millions d'années. Leur existence avait été découverte il y a près de 10 ans. Mais ce n'est que cette semaine qu'une équipe sino-américaine de scientifiques a pu précisément les décrire. Pour cela, ils ont reconstruit numériquement leur squelette à partir de plus de 200 fragments fossilisés. Ainsi, les Siamogales mellilutra pesaient une cinquantaine de kilos, soit le double de leur cousine d'aujourd'hui. Elles peuplaient les marais et les zones humides du sud et du centre de la Chine. Et ces parasites qui nous manipulent, c'est dans le dossier dans un instant.
But know that I've been grieving, know that I've been holding out, hoping to receive him. I've been holding out for G, but he was nowhere to be seen when I was bleeding. Cousin with the choking and the wheezing, but still he dreaming, smoking potent in the evening. This is only for the heathens, holding to the souls who need redeeming from the demons. Still ain't folding when it's freezing, there ain't no one to believe in. I'm on that man's side, damn right, doing it myself from a landslide. Stand by, didn't need no help from no damn guy. Man, bye, I've been making waves all my damn life. Plan my step to the letter and I stand by it. Try it, we ain't holding back if it backfires. Lacks, not the ones who carry crack till they're back tired. Thought they make a meal till it transpired. I ain't like them damn liars. I'm saying I ain't like them damn liars. Trust, told him I get like them damn liars. So keep your mouth closed shut, eyes wide open when that doubt rolls up. Cause if the drought shows nothing but the clowns, hold nothing but the sound, I'll be running till the ground open up. Cause the best don't change, clinging to that cold one. My mother said there's no love until you show some. So I showed love and got nothing, now there's no one. You wonder why I couldn't keep in tow, son. I wonder why my dad didn't want me, ex didn't need me. Half of them left and the rest finna breeze me. Gets blessed till I second guess, rest till it frees me. There's nothing to believe in, believe me.
And when I get in trouble,
little bit of life after death. Scattered my ashes when it's my time to rest. With the lines I'm obsessed, rhymes I possess, can't deny. Seen the biggest guys cry to confess in a breath. Fresh death, pass in the chest, unimpressed with the cess. Left scars in the flesh, he's the best. Worst kept sparring in jest, saying star never bar too far from the nest. So I never left and never thought about doing so. I took and fro from that prime time to a home. You see I'm viewing those nights I should have known better, like whatever. Still my brother say I'm too involved, but who would know what the family first is till your dreams see three family hearses. Worst is, wouldn't mean to speak at the service, so I penned a couple bars, didn't need to rehearse this.
L'œil Carner sur France Inter et Thierry Dupin pour la programmation de l'émission.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Avec ces parasites qui nous manipulent, le dossier de la tête au carré en partenariat avec le magazine Cerveau et Psycho qui consacre entre autres un dossier à cette question dans son dernier numéro, consacré d'ailleurs aux douleurs chroniques. Et pour en parler, son rédacteur en chef Sébastien Boller et Frédéric Thomas, vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire MIVEGEC pour maladies infectieuses et vecteurs, écologie, génétique, évolution et contrôle. Et vous co-dirigez également le CRIC, c'est le centre de recherche écologique et évolutive sur le cancer à Montpellier, avec Benjamin Roche de l'IRD. Vous êtes d'ailleurs en duplex avec nous, des studios de France Bleu. Les auditeurs nous rejoignent avec les messages franceinter.fr, le mot-clé l'attaque, pour découvrir donc ce monde extraordinaire, parfois un peu effrayant, des parasites manipulateurs. Sébastien, c'est un sujet qui ne pouvait pas vous échapper, parce qu'on parle à la fois de cerveau et puis de détournement de comportement. Hein. C'est bien ça dont il s'agit. Avec un micro qu'on ouvre pour vous. Voilà,
qui se déroule à des échelles quasi moléculaires et donc, qu'on ne voit absolument pas.
Ouais.
Moi, ça faisait un petit moment que j'entendais parler des effets de la toxoplasmose sur le comportement des animaux.
Ouais.
Et puis, récemment, est venu de plus en plus dans la littérature scientifique les effets qu'on commençait à avoir chez l'être humain.
Sur l'homme, ouais.
Et quand on sait, alors quand on regarde les chiffres d'épidémiologie, la toxoplasmose, j'ai toujours grandi en me disant que c'était une maladie complètement courante, banale. Et effectivement, il y a à peu près un tiers de la population mondiale qui est porteuse de... de ce parasite, qui est un protozoaire, hein, c'est ni un virus ni une bactérie, c'est un petit protozoaire, un organisme qui est très complexe car il arrive à modifier le fonctionnement des neurones, des cellules, jusqu'à infléchir nos comportements à la fois chez les animaux et puis, comme on vient de le voir récemment, chez l'être humain.
Ouais. Ouais, Frédéric Thomas, on peut être porteur sans le savoir ou pas ?
Oui, absolument. Oui. Disons que la plupart du temps, vous allez savoir si vous êtes porteur uniquement si vous êtes une femme enceinte, puisque pour la médecine conventionnelle, le principal problème de ce parasite, c'est dans le cadre de la primo-infection chez la femme enceinte, où les conséquences peuvent être désastreuses pour le bébé. Donc du coup, la plupart du temps, les hommes ne savent pas s'ils sont porteurs ou pas. Donc moi, j'avais fait la démarche personnellement de savoir si j'étais infecté.
Et vous l'êtes.
Et oui, comme un tiers de la population mondiale. Donc ce qui fait que je ne connaîtrai jamais comment aurait été ma personnalité.
C'est ça.
Auparavant, puisque quand on a ce parasite, on l'a pour la vie.
Mais vous pouvez encore savoir comment elle serait si vous l'aviez. Vous pouvez l'attraper.
Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, c'est un parasite qui semble induire des troubles de comportement chez l'homme, alors plus ou moins graves. Hein.
Ouais.
En fait, pour rappeler un petit peu l'ensemble de l'histoire, donc c'est un parasite qui se reproduit de façon sexuée dans les cellules intestinales de chats. C'est son hôte définitif. Hein. Et donc ensuite, il peut y avoir une transmission directe d'un chat à un autre chat par les fesses. Hein, mais souvent, le parasite va utiliser un hôte intermédiaire, le plus souvent un rongeur, dans lequel il va aller s'enquister dans le cerveau. Et là, effectivement, comme cela a été dit, il modifie de façon puissante le comportement des rongeurs qui se retrouvent à préférer l'odeur d'urine des chats. Alors donc évidemment ils vont aller fréquenter des habitats de félidés avec évidemment toutes les conséquences que vous pouvez imaginer.
Ils vont se mettre dans la gueule du loup quoi, carrément.
Voilà, c'est ça. Mmh. Voilà, donc en gros c'est un petit peu comme si le parasite disait au chat attrape-moi, voilà. Et donc c'est un petit peu le message qui est envoyé.
Et pour les hommes,
en fait,
ça peut fonctionner de la même manière chez l'homme ou pas alors?
Oui, c'est ça. Il y a des travaux intéressants dans ce sens-là, parce que figurez-vous que lorsque l'homme se fait infecter, le parasite ne s'imagine pas qu'il est dans le chat, il s'imagine qu'il est dans le rongeur. Hein. Donc en fait, c'est pour ça qu'il va dans notre cerveau, exactement comme il le fait chez le rongeur. Et donc là, il semblerait qu'il continue ses activités manipulatrices et que ceci pourrait induire toutes sortes de troubles de comportement. Alors, il y a des troubles de comportement légers, du style bon, plus d'anxiété, moins respectueux des règles, plus jaloux, plus dogmatique, des choses comme ça chez les hommes. Ouais. Alors, moins respectueux des règles, certaines études ont quand même montré que les hommes affectés étaient plus souvent impliqués dans les accidents de voiture. Donc, vous voyez que ça peut avoir des conséquences aujourd'hui.
Mais ça, c'est bien pour les assurances ou les tribunaux, parce que du coup, on peut dire c'est la faute de mon parasite, quoi, non ?
Ouais, c'est ça, oui. On pourrait éventuellement invoquer le parasite. Ah, mais ça, alors, à côté de ces troubles, j'ai envie de dire bénins, il y a quand même plus de 40 études aujourd'hui qui trouvent un lien significatif avec des pathologies beaucoup plus graves comme la schizophrénie.
Voilà. Ouais, on va en parler.
C'est pas clair, si vous voulez, parce que bon, il y a quand même un tiers de l'humanité qui est infectée, il n'y a pas un tiers de schizophrènes.
Heureusement.
Voilà. Donc, si vous voulez, oui, heureusement. Donc, en fait, c'est pas si simple que ça d'établir le lien. Quand est-ce que la personne était infectée, pourquoi certains développent une pathologie très grave et pas d'autres. Ouais. Alors après, quand même, ce qui est intéressant à dire, c'est qu'un travail publié assez récemment a montré, à partir donc, d'odeurs d'urine d'animaux collectés dans des zoos, hein, et bien que les hommes infectés avaient tendance à trouver ça moins répugnant, l'odeur d'urine de félidés, que les hommes non infectés.
Ah oui.
Ce qui pouvait éventuellement être adaptatif, il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'il y avait encore des gros chats, si je puis dire, qui essayaient de nous attraper. Oui. Et donc, effectivement, les hommes infectés qui n'étaient plus vigilants ou qui n'évitaient pas les zones de ces félidés avaient plus de chances de se faire consommer, attraper. Ouais. Et donc, le parasite favorisait ainsi sa transmission.
Mais on voit encore d'ailleurs des vidéos qui circulent sur Internet, Frédéric Thomas, d'êtres humains qui vont jeter dans les bras des lions, par exemple. Est-ce que ça pourrait être lié à un parasite comme ça ?
Là, j'avoue que je n'ai pas vu.
Ben regardez, vous serez surpris de ce que vous verrez.
Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que j'ai quelques collègues sur Montpellier, là, l'équipe de Marine Charpentier, qui ont montré récemment que les singes infectés développent une attirance pour l'odeur d'urine des panthères, hein, qui sont le prédateur. Hein, voilà. Et donc, principalement, panthères, et donc, je vous dis, véritablement l'hôte définitif du parasite et le prédateur de prédilection de ces espèces. Donc, effectivement, ça pourrait modifier nos comportements vis-à-vis de certaines odeurs.
Sébastien.
Non, effectivement, cet exemple me venait à l'esprit. Et évidemment, ça pose la question, finalement, quel est le pourquoi de la chose ? Quel est l'intérêt pour un chimpanzé d'aller se jeter dans la gueule d'une panthère ou d'une souris, d'aller se jeter dans la gueule d'un chat ? Et c'est là qu'on rentre dans la logique du cycle du parasite.
Ouais.
Puisqu'en fait, le parasite a besoin de retourner dans l'estomac d'un félin pour parachever son cycle de reproduction.
C'est ça.
Et qu'il y a, alors, c'est très drôle parce qu'on pourrait voir une finalité là-dedans. Quand on n'arrête pas de dire depuis le début de l'émission, le parasite manipule,
absolument,
tire les ficelles.
On l'humanise énormément.
Voilà. Et je pense que la Fontaine se serait régalée si, à l'époque des microbiologistes avec des fables incroyables. Mais évidemment, c'est pas une finalité. C'est-à-dire que les parasites, comme tous les autres êtres vivants, sont sujets à une variabilité génétique, il y a un taux de mutation dans leur patrimoine génétique qui fait que ils ont inventé sans arrêt de nouvelles protéines, de nouvelles variations, et les variations qui faisaient en sorte que la souris infectée se jette dans la gueule du chat étaient évidemment favorisées puisque ça permettait au cycle de reproduction de se parachever, alors que les variants du parasite qui ne provoquaient pas ce comportement chez la souris étaient évidemment éliminés puisqu'ils ne pouvaient plus se reproduire. Ouais. C'est comme ça qu'il faut voir les choses.
Frédéric Thomas, c'est important effectivement ce que souligne Sébastien, parce que dans le cadre de la sélection naturelle, il y a ce rôle des parasites. Avec évidemment la finalité qui n'est pas l'ordre du jour.
Non, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ceci est avant tout le résultat de la sélection naturelle. Hein. C'est donc on est en plein dans les sciences de l'évolution. Mmh. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que les parasites, donc au passage, c'est une réussite incroyable dans le monde vivant, puisqu'il y a plus d'espèces parasites que d'espèces libres. Hein, il faut le savoir. Donc c'est vraiment la tentation de l'exploitation du vivant par le vivant est vraiment irrésistible dans l'histoire de la vie.
Et donc, excusez-moi, parenthèse, exploitation ou coopération ? Parce qu'on peut voir les choses de différentes manières.
Disons que bon, c'est un curseur variable entre des bénéfices qui sont réciproques, et là on tombe dans le mutualisme, hein, la symbiose, à une asymétrie dans les bénéfices où l'un tire un bénéfice et l'autre a un coût. Et donc là on tombe typiquement dans la définition du parasitisme. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que tous les parasites de la planète ont une contrainte immense et commune, celle de se transmettre. Parce qu'en fait, ils exploitent le vivant et que le vivant s'arrête, hein, y a la mort. Et donc, ils ont cette énorme contrainte de la transmission. Et donc là, il y a toutes sortes de stratégies de transmission qui ont été sélectionnées au cours de l'évolution. Alors, certains y vont avec la production d'un très grand nombre de propagules, avec beaucoup de pertes. Et puis, statistiquement, il y en a quelques-uns qui arrivent à trouver un autre. Et puis, d'autres, je dirais, produisent moins, mais produisent mieux. Et donc, ont, par exemple, des stratégies donc, de manipulation. Voilà, et donc c'est dans ce cadre-là que ces stratégies sont sélectionnées. Alors, ce n'est pas du tout finaliste, hein, c'est le résultat de la sélection naturelle sur plusieurs millions d'années d'évolution avec cette contrainte de la transmission. Juste pour terminer sur Toxoplasma quand même, pour montrer qu'il peut y avoir des conséquences qui sont tout à fait inattendues. Certains auteurs, là, dont un collègue... professeur à l'université de Californie à Santa Barbara, s'est posé la question il y a quelques années de savoir si finalement ce parasite pouvait influencer le comportement de nations entières, puisque si vous voulez, par là, la prévalence d'infection, hein, le nombre de personnes infectées peut aller de 0% dans certaines ethnies, certaines populations, à près de 100% dans d'autres. Donc en fait, si ce parasite est capable de manipuler le comportement, enfin, changer la personnalité des gens, eh bien c'est le comportement de nations entières qui pourrait être influencé par ce parasite. Et donc, il a croisé des statistiques sur les grandes tendances psychologiques, la peur de l'avenir, l'anxiété, etc., et la prévalence d'infection, et il a trouvé des corrélations tout à fait intéressantes. Et il spécule même jusqu'à dire que ceci pourrait influencer la politique, hein, en favorisant des hommes politiques plus ou moins conservateurs dans certains pays, etc.
Donc, voyez, ah oui, c'est une à qui vous fou, pensez, par exemple
Oui, c'est ça. Je me garderai de donner de nom, mais enfin, chacun comprendra. Mais donc, du coup, c'est une histoire de fou, puisque c'est quelque part un parasite qui cherche à favoriser sa transmission d'une souris à un chat qui pourrait être responsable de grandes tendances comportementales dans les populations avec des effets.
Allez, c'est tout à fait, on y revient dans un instant. C'est le dossier de l'émission et c'est passionnant. C'est Parasite qui nous manipule avec vos questions sur franceinter.fr. Verso et ses paradis à l'instant.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Le ténia nous affecte quand nous mangeons de la viande contaminée. On en trouve plus fréquemment dans les endroits où l'hygiène laisse à désirer. Une fois en nous, le ver s'installe dans notre système digestif. Sa tête se fixe à nos intestins grâce à de petits crochets. Ensuite, il consomme ce que nous mangeons. Il a trouvé l'environnement idéal pour se développer. Il fait chaud, la nourriture afflue et il n'y a aucun prédateur. Ils peuvent vivre dans un corps humain pendant 20 ans sans qu'on le remarque. Toutefois, une infection importante peut provoquer de graves problèmes intestinaux. Heureusement, les médicaments en viennent rapidement à bout.
un exemple, hein, Frédéric Thomas, parmi tant d'autres, du ténia, donc ce ver parasite de l'intestin, qu'on appelle également le ver solitaire, hein, c'est le même.
Oui, c'est ça, c'est le même. Oui. Avec plusieurs espèces de ténia, mais oui.
Est-ce que tous les parasites sont des manipulateurs au fond ? Parce qu'on les présente comme ça depuis le début de l'émission, mais est-ce qu'il faut vraiment les aborder avec cet angle-là ?
Alors, il y en a beaucoup qui sont manipulateurs. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, la manipulation, c'est rien d'autre qu'un trouble pathologique qui a été retenu par la sélection du fait de l'avantage qu'il confère pour la transmission. Mmh. Donc, les parasites induisent des tas de troubles, et puis certains, effectivement, ont une valeur qui est intéressante pour la transmission, et donc ceux-là sont retenus. Et donc, du coup, on appelle ça de la manipulation. Alors, il faut savoir que c'est pas forcément quelque chose de complexe, une manipulation. Ça peut être très simple. Mmh. La sélection naturelle ne retient pas les choses forcément complexes, elle retient les choses qui marchent. Et donc, si vous prenez par exemple une manipulation avec des petits vers intestinaux qu'on appelle des oxures, hein, que les enfants, tout au moins autrefois, avaient en abondance, aujourd'hui il n'y en a plus à cause des vermifuges, tout au moins dans les pays riches, eh bien, les femelles, chez ces petits vers, pondent autour de l'anus et provoquent une démangeaison. Et donc là, il n'y a rien de plus efficace pour que les enfants aient des milliers d'œufs sur les doigts. Mmh. Et donc, du coup, le premier morceau de nourriture échangé ou d'interaction avec d'autres transmettent le parasite. Donc, c'est une manipulation qui est extrêmement simple, mais extrêmement efficace pour la transmission.
Sébastien.
Donc, beaucoup de parasites manipulent, mais pas tous. Oui,
ça me fait penser à ce que me disait il y a quelques années Claude Combes, qui travaillait aussi sur ces questions. Mmh. Il imaginait que le réflexe d'éternuement qu'on a quand on a un virus d'un rhume, ça pourrait être aussi une stratégie utilisée par le virus pour être expulsé et toucher les autres.
Il viendrait nous chatouiller les naseaux alors pour...
mais je ne sais pas si ça a pu être prouvé scientifiquement ou si c'est encore une état d'hypothèse.
Frédéric Thomas.
Oui, ça reste à l'état d'hypothèse, tout comme certaines diarrhées également, hein, qui seraient des processus pour... voilà, donc toxo, on l'a vu chez l'homme, et après, avec le virus de la rage, hein, dans les formes furieuses, c'est vrai que ça induit des modifications de comportement qui sont de nature à favoriser la transmission. Donc globalement, il n'y a quand même pas beaucoup de manipulations de comportement connues chez l'homme, tout simplement parce que nous sommes des organismes qui sont complexes, avec un cerveau complexe, et évidemment, s'introduire pour réussir à interférer avec un cerveau complexe, c'est plus compliqué qu'avec un cerveau simple. C'est pour ça que la plupart des manipulations de comportement, en fait, on les observe chez des invertébrés.
Alors, on a des questions des auditeurs, elles sont nombreuses. D'ailleurs, Florence demande sur Facebook si le parasite émet des molécules qui pourraient attirer les prédateurs, justement.
Alors, en fait, donc, dans les mécanismes de la manipulation, hein, puisque ça revient à ça, cette question, donc en fait, bon, il y a plusieurs possibilités. Alors, effectivement, on peut supposer que le parasite va produire certaines molécules pour interférer directement, donc des neurotransmetteurs, des neuromodulateurs, pour interférer directement avec le cerveau. Alors, cette hypothèse n'est pas privilégiée par les scientifiques, tout simplement parce que souvent les parasites sont plus petits que leurs hôtes, beaucoup plus petits, et donc ça pose un problème de réussir à produire en quantité biologiquement intéressante, suffisante, hein, réaliste, assez de ces molécules-là. Alors, il peut y avoir quelques petites exceptions avec les vers chez les grillons qui sont assez gros. Et donc, il y a quelques années, nous avons pu montrer que les vers produisaient des molécules mimétiques. C'est-à-dire que ce ver qui parasite des insectes, eh bien, produit des molécules comparables à celles des insectes. Et en fait, effectivement, puisque là, c'est un dialogue moléculaire, certes, mais un dialogue. Mm-hmm. Quand on veut communiquer, il faut parler le même langage. Et donc, du coup, le ver, en cours de l'évolution, a sélectionné des molécules qui ressemblent à celles des insectes pour interférer dans le cerveau.
Justement,
voilà, donc en fait, c'est une possibilité. Il y en a d'autres, hein, parmi les mécanismes de la manipulation.
Il y a une question de Sarah sur le site de l'émission qui demande pourquoi justement on parle de coévolution entre le parasite et l'hôte, Frédéric Thomas.
Alors, on parle de coévolution tout simplement parce que les hôtes cherchent évidemment à ne pas avoir les nuisances de l'infection, puisque tous les parasites ont un coût. Hein, quand ils obligent par exemple leurs hôtes à se suicider en allant se jeter devant un prédateur, attrape-moi, voilà. Donc tout ça stimule chez l'hôte des comportements pour éviter ces conséquences-là. Évidemment, le parasite, ça stimule chez lui des moyens pour contourner ses défenses. Donc en fait, c'est une course aux armements qui conduit à ce qu'on appelle de la coévolution. Ça évolue d'un côté, ça évolue de l'autre, ça réévolue, etc. Ça coévolue. Voilà. Donc souvent, on parle de l'hypothèse de la reine rouge, hein, c'est-à-dire que l'hôte doit toujours évoluer pour, entre guillemets, rester à la même place, hein, par analogie avec Alice au Pays des Merveilles. Donc, en fait, les parasites évoluent beaucoup plus vite que nous, donc il faut vraiment courir vite pour rester au moins à la même place.
Oui, il y a effectivement des théories, je ne sais pas si elles sont fondées, sur l'attirance des humains pour les pour les chats. On s'est longtemps demandé pourquoi les humains aiment autant les chats. Et il suffit d'aller pour Internet pour voir que ce qui marche le mieux, c'est les photographies de chats sur le
Vous avez une réponse à cette question ou pas, Frédéric Thomas? Parce qu'effectivement, on voit circuler ça. Et ça pourrait être lié à la toxoplasmose.
Un effet secondaire de l'attirance des premiers vertébrés, enfin des murins, des souris. Et comme l'ont montré les études de Montpellier, des primates envers les félins, quand on est infecté par le parasite. Et est-ce qu'en tant qu'être humain, on pourrait subir aussi cette attirance pour les félins? Et du coup, il y aurait une coévolution par la domestication, l'envie d'avoir un chat près de soi, je ne sais pas du tout.
Frédéric Thomas.
Possible. Possible. Là, j'avoue que j'ai pas de réponse précise à ça. Ça me rappelle pour montrer que des fois, il y a des corrélations qui sont tout à fait intéressantes à soulever avec les parasites. Il y a quelques années, je lisais un article de quelqu'un qui dénigrait les statistiques en biologie et qui prenait comme meilleur exemple. Il dit, regardez, il y a une très bonne corrélation entre le fait d'avoir eu un chat dans l'enfance et la probabilité d'avoir une grave dépression plus tard dans la vie. Pour lui, c'était un exemple absolument idiot, débile. Et donc, évidemment, si on replace avec toxoplasma derrière, ça pourrait trouver une signification.
Vous parliez tout à l'heure des populations qui pourraient être infectées à 100%. À quelle population vous faisiez allusion, justement?
Notamment les Inuits, hein, qui mangent beaucoup de viande crue et donc qui s'infectent comme ça. Et donc, ils sont vraiment, il y a des prévalences qui sont records dans ces populations. Alors après, si vous voulez, ce qui se passe aussi, c'est que lorsque une population coévolue justement avec un parasite depuis extrêmement longtemps, eh bien, on peut s'attendre aussi à ce que les individus de cette population aient, au cours du temps, sélectionné des mécanismes qui limitent les effets de l'infection. Hein. Donc, en fait, on n'est pas identique par rapport à l'infection en fonction de notre histoire coévolutive avec les parasites. C'est la raison pour laquelle, quand on arrive dans des endroits avec des parasites nouveaux, souvent les conséquences sont beaucoup plus importantes que les populations qui vivent avec.
Allez, autre exemple, justement, d'un parasitisme plus connu, celui-là, celui du coucou.
Je connais une forme de parasitisme moins glauque, mais particulièrement étrange. Elle se manifeste chez les oiseaux. Elle se produit quand un animal vole la nourriture d'un autre. On appelle ça le parasitisme alimentaire ou kleptoparasitisme. Et le coucou est le maître en la matière. Dans le cadre de cette relation singulière, le coucou amène un autre à nourrir et à élever son poussin. Ici, un coucou adulte a pondu dans le nid de cette rousserolle. Quand le petit coucou éclot, il se débarrasse des autres œufs présents dans le nid. Ensuite, il reste dans le nid et ses parents d'adoption le nourrissent comme leur propre enfant. Et les coucous peuvent devenir 6 fois plus gros que leurs parents adoptifs. Et la rousserolle ne s'en rend même pas compte. C'est déconcertant.
Frédéric Thomas, l'exemple du coucou. Est-ce qu'on peut trouver plein d'exemples justement dans la nature, hein?
Oui. Alors, l'exemple des coucous est particulièrement intéressant parce que, donc, effectivement, c'est donc ce qu'on appelle un parasitisme de ponte. Hein. Les coucous sont donc des oiseaux qui vont pondre leurs œufs dans le nid d'autres oiseaux et qui font nourrir leurs poussins. Bon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez les coucous d'Europe, effectivement, comme ça vient d'être dit, le coucou va expulser tous les autres poussins, mais chez d'autres espèces comme le coucou jet, en fait, le petit coucou se fait élever avec les autres poussins, généralement une pie. Et donc là, il y a eu des travaux fascinants il y a quelques années, publiés dans des grands journaux, qui ont montré, en fait, le coucou utilisait une stratégie mafieuse pour obliger l'oiseau hôte à accepter et à nourrir le petit poussin. Alors comment ça se passe? En fait, la femelle va pondre un œuf dans plein de nids et elle passe régulièrement dans tous les nids voir si le petit coucou est bien nourri. Si le petit coucou est bien nourri, pas de problème, elle continue son chemin. Si le petit coucou est mal nourri ou a été tué ou sorti du nid, eh bien elle tue tout le reste de la nichée.
Incroyable.
Ce qui fait que pour la pie, c'est plus coûteux
de ne pas prendre soin.
C'est-à-dire, c'est plus coûteux de ne pas nourrir le petit. Alors, évidemment, c'est une bouche de plus à nourrir, donc c'est pas rien. Mais c'est plus coûteux de sortir le petit coucou. Donc, en fait, on peut obliger quelqu'un à faire quelque chose en lui imposant un extra coût en absence d'obéissance.
Ah oui, c'est la mafia, quoi. Mafieuse. C'est la vraie mafia.
Mais je pose une question, c'est comment.
T'as le coup, mais ça sera pire si. C'est, voilà.
Comment la pie peut-elle savoir que si elle traite mal le petit, elle aura des représailles? Il y a un échange qui se fait au préalable ou comment ça se passe?
Alors là encore, c'est le résultat d'une coévolution entre des populations, si vous voulez, où la fréquence des individus accepteurs du petit coucou va augmenter si les individus ne coopèrent pas. Ne nourrissent pas le petit coucou, la fréquence des rejeteurs va diminuer puisque leur nichée est éliminée.
Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre cette discussion. On parlera des mécanismes neuronaux justement dans ces cas de parasitisme absolument passionnant. Et vos questions sur franceinter.fr.
ondas das maravilhas, cortando a faca e facão, os desatinos da vida, gritando para assustar a coragem da inimiga, pulando pra não ser preso pelas cadeias da intriga. Prefiro ter toda a vida como inimiga, até na morte da vida, minha sorte decidida. Sou vira-mundo virado pelo mundo do sertão, mas ainda viro esse mundo em festa, trabalho e pão. Virado será o mundo e vira-mundo verão. O virador desse mundo, astuto, mau e ladrão, ser virado pelo mundo que virou com certidão. Ainda viro esse mundo em festa, trabalho e pão. Sou vira-mundo virado pelo mundo do sertão, mas ainda viro esse mundo em festa, trabalho e pão. Virado será o mundo e vira-mundo verão. O virador desse mundo, astuto, mau e ladrão, ser virado pelo mundo que virou com certidão. Ainda viro esse mundo. Em festa, trabalho e pão.
Viramundo avec Maria Bethania dans cette tête au carré consacrée donc à ces parasites manipulateurs en partenariat avec Cerveau Psycho qui est en kiosque donc ce mois-ci, Sébastien, avec en une d'ailleurs les douleurs chroniques. C'est un autre thème que vous mettez à la une, mais vous revenez donc longuement sur la toxoplasmose dans ce numéro. Justement, une question pour Frédéric Thomas, Sébastien, sur les mécanismes neuronaux.
Oui, alors quand on parle de manipulation d'un animal complexe comme une souris par un parasite, le comportement de la souris est évidemment piloté par des mécanismes cellulaires et neuronaux bien particuliers, et donc il faut imaginer que le parasite va tirer les ficelles quelque part dans les neurones du cerveau de la souris. Est-ce qu'on en sait plus à ce niveau-là?
Alors, d'une façon générale, ce qu'il faut savoir, c'est que les mécanismes proximaux, donc les molécules impliquées dans la manipulation de comportement, c'est ce qui est le moins bien compris à l'heure actuelle dans ce phénomène. Alors, dans le cadre de la toxoplasmose, ce qui a été montré il y a 2-3 ans maintenant, une étude publiée dans PNAS, c'est qu'en fait, le parasite va détourner des circuits qui existent déjà, mais qui sont fonctionnels dans un autre registre, et notamment le comportement sexuel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit peu comme si le parasite allait utiliser tout ce qui est déjà en place dans le cadre de l'attirance sexuelle chez les souris, mais cette fois en gros la détourner vers l'odeur d'urine des chats. C'est un petit peu au final comme si la souris se retrouvait à être amoureuse de l'odeur d'urine des chats. Voilà. Donc en fait, c'est pas de la magie, c'est du détournement de quelque chose qui existe déjà. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, des manipulations de comportement, ça consiste tout simplement à faire à l'autre quelque chose qu'il fait naturellement, mais le faire à un mauvais moment, moment.
Frédéric
quelque
Thomas,
chose de inapproprié.
Un extrait de la série Dr House pour poursuivre notre discussion.
La toxoplasmose est un parasite assez commun qui s'attrape en mangeant de la viande qui n'est pas assez cuite ou au contact de déjections félines. Dans de rares cas, le parasite va migrer jusqu'au cerveau et s'y développer, causant une lésion ou une infection cérébrale.
Et alors, quel est le pronostic?
Généralement, la toxo répond très bien au traitement. On ne peut craindre des lésions cérébrales que si le patient est fortement immunodéprimé. Je crois que vous avez le sida, sénateur. Et vous savez...
Non.
Et vous savez comme nous que l'on vit mieux maintenant avec le sida.
C'est autre chose, forcément.
En théorie, certains cancers ont...
Si vous avez une toxo au cerveau, vous avez le sida.
Pourriez au moins me faire le test.
On va le faire.
Mais le traitement contre la toxo va énerver le parasite. Et quand ça pique une crise, un parasite...
Il ne faut pas agacer le parasite, Frédéric Thomas, c'est ça?
Alors bon, je ne sais pas si c'est vraiment les termes à utiliser. Ce qui est sûr, c'est que si vous attaquez un parasite ou n'importe quel agent infectieux, typiquement, ce que vous risquez de faire, c'est de sélectionner des variants qui vont être résistants. Hein, c'est le problème que l'on a, par exemple, avec les bactéries et les antibiotiques. Hein, dès lors qu'on essaie de les attaquer, eh bien, comme il y a de la variabilité dans les populations, on risque de tout simplement de sélectionner, de faire un boulevard à ceux qui ne sont pas touchés par le poison qu'on essaie de leur balancer dessus.
Alors Frédéric voilà, Thomas, aidez-nous à décrypter ce qu'on vient d'entendre, parce que dans cet extrait de Dr Haas, on parlait de toxoplasmose, mais également de sida et de cancer. Comment on fait le lien entre tout cela? Parce que c'est pas très clair pour nous.
Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que chez les patients qui sont immunodéprimés, donc typiquement les gens qui sont atteints du sida, tout problème infectieux devient rapidement problématique. Hein. Il y a une probabilité très forte, parce que le système immunitaire n'étant plus là pour jouer son rôle de défense, et bien forcément tous les organismes qui sont opportunistes à l'intérieur de notre corps ont plus de facilité pour se développer. Alors c'est le cas évidemment aussi des cellules cancéreuses qui sont la plupart du temps, j'ai envie de dire, tenues en respect par le système immunitaire qui est là et qui les empêche de proliférer. Dès lors que notre système de défense se retrouve moins performant, il y a une plus forte probabilité que certains variants échappent et deviennent problématiques, invasifs, développent leur activité et puis détruisent nos tissus sains et perturbent notre homéostasie, notre bon fonctionnement.
En 2012, vous aviez justement publié un article sur un parasite qui pourrait augmenter le risque du cancer du cerveau.
Oui, alors justement, c'est Toxoplasma gondii, le parasite dont nous sommes en train de parler. Ouais. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est donc enkysté à vie dans notre cerveau lorsque l'on est infecté. Hein, donc, on a des petits kystes. Bon. Et la plupart des pathogènes que l'on appelle donc oncogènes, c'est-à-dire susceptibles de faire dérailler nos cellules et de les conduire au cancer, hein, donc typiquement certains papillomavirus avec le cancer du col de l'utérus et choses comme ça. Donc, typiquement, tous ces pathogènes oncogènes sont des infections que l'on a à vie. C'est-à-dire qu'on les attrape un jour dans notre vie, et puis le parasite va rester présent pendant 10, 20, 30, 40 ans dans notre organisme. Et puis, bien sûr, là, il bricole, il fait son affaire, et donc du coup, il peut faire dérailler nos cellules. Donc l'étude que nous avions menée à l'époque consistait à essayer de regarder s'il y avait des liens entre la fréquence d'infection dans les populations humaines, donc par Toxoplasma gondii, enkysté dans le cerveau, et puis la fréquence je crois que c'était 42 cancers différents que nous avions considérés à l'époque, et les relations étaient très fortes avec le cancer du cerveau, c'est-à-dire comme par hasard, là où le parasite est enkysté à vie. Donc ce qui laisse penser qu'il pourrait y avoir une certaine causalité qui reste bien sûr à démontrer. Une corrélation n'est pas une preuve de la cause, hein, mais c'est quand même extrêmement intriguant, et on l'a fait à deux échelles différentes, hein, avec des jeux de données indépendants, une échelle internationale et puis l'échelle française, au travers des différents départements.
Ce qui pourrait réorienter les stratégies thérapeutiques ou pas?
Au moins d'avoir, j'ai envie de dire, un nouveau regard sur ce parasite que l'on considère comme non problématique, je vous dis, sauf chez la femme enceinte si elle l'attrape pour la première fois. Manifestement, les données actuelles et l'avenir montreront que ce parasite est pas si anodin. On considère même aujourd'hui que c'est une chance, hein, pour une femme d'être infectée, puisque du coup, comme ça, elle est tranquille pour la grossesse. Voilà. Bon, mais après, je vous dis, les effets sont pas systématiques. Il y a un tiers de la population qui est infectée. Il n'y a pas un tiers de personnes qui ont une tumeur au cerveau.
Allez, on termine rapidement avec des réponses courtes, Frédéric Thomas et Sébastien. Oui, Yannick qui nous dit ceci: est-ce qu'il existe des parasites indispensables?
Oui, alors il en existe plein pour différentes raisons, et l'exemple le plus spectaculaire, c'est ce qu'on appelle la dépendance évolutive. C'est-à-dire que quand on a coévolué pendant très longtemps avec des parasites, comme les vers que nous avions dans l'intestin auparavant, eh bien aujourd'hui quand on les supprime, eh bien figurez-vous qu'on va moins bien que quand on les a, tout simplement parce qu'on a notre système immunitaire qui se retrouve au chômage technique, qui est mal adapté à cette absence de parasites. Et donc du coup, on a une dépendance évolutive, et donc les maladies de type allergie, maladie de Crohn, et plein de maladies auto-immunes qui sont en pleine recrudescence aujourd'hui trouveraient leur origine dans cette élimination des parasites. On a cru naïvement que en éliminant les parasites, le problème était réglé. Alors bien sûr qu'ils ont des effets délétères, et donc il faut lutter contre, mais on ne peut pas simplement éliminer des millions d'années de coévolution entre des hôtes et des parasites et dire le problème est réglé, on a retiré le parasite.
Allez Sébastien, pour terminer.
L'exemple le plus connu en ce moment, c'est l'exemple des organismes commensaux. On héberge quand même des centaines de milliards de bactéries qui qui profitent de notre environnement intestinal, mais qui le façonnent aussi, et sans lesquels on serait absolument incapable d'absorber notre nourriture et de nous défendre contre les infections.
Étienne demande si la maladie de Lyme est considérée, est concernée par ces parasites qui nous manipulent, Frédéric Thomas.
Alors, elle est véhiculée par des tiques, et je n'ai pas vu de travaux montrant de modifications de comportement alimentaire chez les tiques infectées, mais c'est tellement probable, puisque bon, il y a tellement de parasites qui sont donc transmis par des vecteurs. Hein, beaucoup de parasites sont transmis par les moustiques, hein, comme l'agent de la malaria, sont capables de manipuler le comportement du vecteur et le faire piquer davantage. Augmenter l'appétit du vecteur. Hein. Donc, ça ne serait pas surprenant que les tiques infectées aient un comportement alimentaire exacerbé par rapport aux tiques non infectées.
Pour ceux qui seraient curieux et pour terminer très très vite, comment est-ce qu'on peut savoir si on est atteint justement par Toxoplasma gondii, par exemple ?
Une simple prise de sang, simplement. Hein. Si vous avez les anticorps, c'est qu'il est dans votre cerveau. Voilà. Et si vous n'avez pas les anticorps, c'est que vous n'avez jamais été infecté. Voilà.
Merci pour votre
réponse. C'est très rigolo parce que, je vous dis, la plupart du temps, ce sont les femmes enceintes. Donc, quand vous allez et vous rentrez dans le cabinet médical et que vous dites « je viens pour une sérologie toxo », tout le monde pense que vous êtes un hypochondriaque de première ou qu'il y a une erreur.
Merci en tout cas pour vos explications, Frédéric Thomas. Merci aux équipes de France Bleu à Montpellier. Et puis Sébastien, donc je renvoie les lecteurs sur Cerveau Psycho du mois de février qui est en kiosque actuellement, avec donc un dossier consacré à la toxoplasmose, mais pas seulement, aux douleurs chroniques avec les traitements qui marchent. Merci Sébastien.
Merci Mathieu.
À bientôt.
La science grand format, en partenariat avec France 5.
Et c'est tous les mercredis avec la tête au carré, puisque nous sommes partenaires de la science en grand format. Ce soir, 20h45, en quête de vie dans l'univers. Thierry Minot, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous travaillez dans l'unité documentaire de France 5. Y a-t-il de la vie ailleurs dans l'univers ? C'est évidemment la grande question qui taraude les scientifiques du monde entier, hein.
Exactement, c'est l'une des plus vieilles interrogations de l'homme. Existe-t-il une vie ailleurs que sur la Terre ? Alors c'est vrai que ce soir, la science grand format vous embarque dans un voyage assez extraordinaire au cœur de l'univers. Vous en doutez, plus que de tenter de débusquer des petits hommes verts, on s'interrogera sur la possibilité que la vie puisse apparaître sur une autre planète.
Eh bien, on va écouter justement un extrait de ce documentaire.
D'accord.
Le 23 juillet 2015... l'équipe de la NASA, en charge du télescope spatial Kepler, annonce une nouvelle découverte fascinante. Une exoplanète analogue à la Terre vient d'être localisée. Son nom, Kepler-452b. En quoi cette nouvelle réplique potentielle de la Terre diffère-t-elle de celle découverte précédemment ? Kepler-452b est la première planète apparemment rocheuse en orbite autour d'une naine jaune, le même type d'étoile que notre Soleil.
Voilà Thierry, donc l'idée c'est d'aller voir ailleurs sur des planètes qui pourraient ressembler beaucoup à la nôtre, hein ?
Exactement, et ça c'est grâce au télescope spatial de la NASA, donc qui est nommé Kepler, et grâce à ce télescope, les astrophysiciens peuvent étudier des exoplanètes qui se situent très très loin de notre système solaire. En effet, Kepler-452b se situe à 1400 années-lumière de notre Terre, et quand on sait qu'une année-lumière, ça équivaut à 9461 milliards de kilomètres,
c'est vrai.
Ça fait une petite trotte. Pas encore arrivé sur place.
Oui, absolument. Et donc, il y a des chiffres impressionnants sur cette planète. Et on verra dans le documentaire que la communauté des scientifiques est convaincue que dans les prochaines décennies, hein, on va pouvoir répondre à cette question de la vie ailleurs, quand même.
Exactement. La science a fait de naître vrai, et les scientifiques en sont persuadés. Ils s'étaient d'abord focalisés sur les planètes et les satellites de notre système solaire. Mais finalement, la vie, si elle existe, serait peut-être nettement plus loin.
Bon, j'espère qu'on en parlera très vite dans la tête au carré, en tout cas. Et ce soir, 20h45, en quête de vie dans l'univers, c'est sur France 5. Merci Thierry Minot, à bientôt.
Merci, à vous, au revoir.